Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Maëlys de Kerangal.
Bonsoir.
Et bienvenue. On est très heureux de vous re-recevoir parce que vous étiez des invités de la première édition des Fractions il y a 5 ans, en 2020. Et que reprendre rendez-vous compte quand votre travail pour nous compte. En tant que lecteur et individu, hein, je pourrais parler du comité de lecture et à quelle vitesse l'assentiment unanime s'est fait. Mais au cœur des préoccupations de ce festival qui sont interrogées depuis le début, les rapports entre le réel et la littérature, alors ça peut être immense et vague, mais vous avez une littérature depuis le début des années 2000 où vous avez commencé à publier des romans, une grosse bonne douzaine chez Vertical, et puis des petits pas de côté par ailleurs, formes plus ou moins documentaires ou d'enquête, des formes, enfin des expériences autres. Et dans les romans comme dans ces formes documentaires, le rapport avec le monde extérieur déjà et le matériau documentaire lui-même est au cœur de vos intrigues. De votre matériau romanesque, c'est-à-dire qu'il y a une coalescence très forte dans votre travail entre le sujet documentaire, un sujet a priori parfois abrupt pour le roman, hein, je pourrais remonter jusqu'à Naissance d'un pont, construire un pont ou faire une transplantation, des choses techniques qui ne sont pas a priori des thèmes romanesques et que vous utilisez, convertissez, transformez, utilisez, qui deviennent des éléments moteurs de la machinerie romanesque. J'ai employé plusieurs fois roman, mais c'est très volontairement parce que Jour de Ressac, qui est votre dernier roman paru à la rentrée littéraire dernière, chez Vertical encore, et d'abord et avant tout cela, et en même temps je pourrais dire son contraire, et d'abord et avant tout un roman romanesque, pour faire un pléonasme, mais c'est aussi un roman documentaire et tout autant. Et ce qui est assez formidable pour des lecteurs en premier lieu, c'est d'être emporté en permanence dans un flux, dans un horizon qui est tout autant mental que actif et qui est tout aussi romanesque et passionnant quand vous nous parlez de médecine légale que de détails de l'imprimerie. Que d'un certain nombre de c'est pas des items, ce sont les activités qui occupent les humains concernés par cette histoire et qui sont en permanence agissantes dans le récit même, dans un système de monologue pas seulement intérieur, de monologue intérieur et extérieur, si j'ose dire, on passe en permanence de l'intérieur à l'extérieur de cette narratrice qui est elle-même un véhicule autant qu'un personnage. Puisque, pour faire le pitch très rapidement, j'ai parlé de roman romanesque, il se passe quelque chose dès le début. Cette héroïne, à la première personne, c'est votre premier roman à la première personne, cette héroïne qui, comme vous, vient du Havre, a passé sa jeunesse là-bas, vous aviez déjà écrit dessus, mais qui n'est pas du tout vous, c'est-à-dire qu'il y a des démarquages très nets pour qu'on ne s'imagine pas que ce soit une forme d'autofiction. C'est pas ça dont il s'agit, c'est pour ça que je parlais de véhicule. C'est une conscience active dans la ville qui est aussi celle de vos origines, mais qui est une ville très particulière en soi, Le Havre. Je ne dirais pas que Le Havre est le personnage, parce que c'est un cliché qu'on ne sait plus trop bien comment manier, mais en tout cas c'est une présence active et principale tout au long du livre. On déambule avec elle dans Le Havre, sous prétexte, et alors je reviens à cette histoire d'intrigue, sous un prétexte policier au départ, d'enquête par la suite, mais au départ très policier, savoir la surprise d'un coup de fil que la narratrice a chez elle en milieu de journée du commissariat du Havre qui lui dit « Vous êtes... attendu au Havre pour témoigner dans une affaire vous concernant. » Et donc, polar, roman noir, pas du tout, a priori, ou plus ou moins, vous contredirez autant que vous voudrez à cet endroit-là, c'est une sorte de fausse piste. Mais la police est au cœur du livre, pour autant, et l'enquête est au cœur du livre. Et le fait policier et le fait criminel aussi sont au cœur du livre. Mais, voilà, ça joue avec les codes du polar, comme d'autres l'ont fait avant, de Echnoza, voilà. Mais, c'est pas juste une métafiction là-dessus, c'est un prétexte à déambulations dans Le Havre, qui sont des promenades au sens littéral, mais des promenades également temporelles. Je pourrais dire encore beaucoup plus longtemps, vous avez compris, j'ai apprécié ce livre. Et on a réfléchi ensemble à ce qui allait être intéressant de traiter dans ce cadre-là et dans Effraction, c'est d'essayer d'enquêter avec vous sur votre propre rapport documentaire, c'est-à-dire de se demander ensemble comment ça fonctionne chez vous, pour vous. Quelle est la machinerie qui fait que vous intéressez à la médecine légale et en fait le livre, ou vice-versa, vous allez enquêter sur tel ou tel domaine et pour l'utiliser romanesquement, où est-ce qu'il y a un endroit, un élément vous intéresse et déclenche du romanesque. Et pour ça, ce que je vous proposerais, c'est qu'on se l'ait dit comme ça, qu'on essaie de passer en revue un certain nombre de matériaux documentaires au sens propre et de nature assez différente, mais qui seraient ceux qui ont déterminé ces questions d'écriture, les questions d'écriture de ce livre. Et le premier matériau, quand on s'est posé la question, vous voyez, le premier matériau, c'est le Havre, oui, c'est le béton, mais c'est sa minéralité, c'est l'architecture, mais pas seulement, c'est autre chose, c'est d'abord la minéralité, donc le lieu, qui est le lieu là de l'enquête, mais en tant que matériau, comment l'avez-vous très concrètement et très intérieurement aussi revisité ?
Bonjour et puis merci d'être là. Donc, il est question d'une ville très... Je souhaitais écrire un livre qui me permette d'approcher le Havre d'une certaine manière. Et c'est vrai que mon envie était de faire exister cette ville qui a déjà existé dans d'autres romans. C'était ce Réparer les vivants situé au Havre, Dans les rapides, un roman précédent également. Mais là, j'avais envie de donner à cette ville justement une fonction presque de moteur du roman, c'est-à-dire de la sortir peut-être d'un espèce de décor, d'en faire autre chose que qu'un décor romanesque, mais d'en faire plutôt le principe actif, je dirais la substance du livre. Alors c'est quoi la substance d'un roman ? C'est ce qui lui donne son climat, sa corporéité, sa physique. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire de cette ville, c'est en ce sens-là que pour moi, elle a valeur presque de personnage, c'est-à-dire qu'elle a un corps, elle a une histoire et elle est agissante. Donc pour moi, ces trois caractéristiques pourrait la faire passer de modèle non humain à une forme de puissance agissante. Pour moi, elle est animée. Elle est animée. Donc la question de la minéralité, elle est très présente parce que pour moi, cette minéralité, elle renvoie à la physique et même à la physionomie de la ville, hein, donc ville minérale parce qu'on est sur le plateau du Pays de Caux, on est en bout d'estuaire, on est dans une ville qui est longée par un cordon dont le rivage est un cordon de galets dont certains sont liés à l'érosion très classique, le silex qui est roulé dans les vagues, mais d'autres proviennent plutôt des ruines de la ville, donc il y a une minéralité qui est aussi un peu inquiétante et qui porte les traces aussi de l'histoire de la ville, puisque lors de la destruction du Havre, une partie des ruines ont été... La question des gravats qui nous occupe tous actuellement, les gravats des villes en ruines, des villes en guerre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait de tous ces débris, bon, on peut les décaisser, on peut les déblayer, et puis parfois c'est tellement important qu'en fait on les réemploie, il y a du réemploi, donc au Havre il y a eu du réemploi à certains endroits parce que le sol de la ville s'est rehaussé, puis à d'autres endroits il est parti, il a été repoussé sur sa marge, en fait, sa marge côtière, sa marge de rivage. Donc cette minéralité, elle raconte déjà plein de choses. Et puis, on a parlé de la reconstruction du Havre. Et moi-même, j'ai parlé j'ai employé beaucoup ce terme de reconstruction avant de me rendre compte que, en fait, on n'avait pas vraiment reconstruit la ville. On avait plutôt construit en lieu et place de l'absence... du trou laissé par la ville détruite, une autre ville qu'on a également appelée Le Havre. C'est-à-dire que Le Havre n'a jamais vraiment été reconstruit. C'est complètement une autre ville qui est là maintenant, une ville donc avec, alors là pour le coup, une minéralité assez différente. C'est le béton qui est un matériau qui raconte une autre histoire, une histoire, c'est un matériau prolétaire, bon marché, il fallait reloger les gens extrêmement rapidement. Donc en fait, l'utilisation de ce béton, il raconte aussi une époque. Donc là, c'est l'architecture de Perret des années 40. Et donc c'est une architecture qui, en fait, va produire aussi un imaginaire très fort, parce que Perret, c'est des lignes très épurées, une architecture assez géométrique, un plan de la ville en damier, donc des artères qui se croisent en angle droit, et une scénographie assez particulière qui fait que ça suscite immédiatement, je dirais, un cadre qui appelle le regard, et donc possiblement, je dirais, un impensé, voire même une inspiration cinématographique. Hein, quand on est au Havre, avenue Foch, il y a cette grande avenue, deux tours, et puis entre les deux, il y a cette espèce d'horizon, et on est dans des cadres. Donc en fait, la minéralité de la ville, qu'elle vienne par vraiment le sol, la pierre, qu'elle vienne par le béton, qui est d'ailleurs assez ouvragé, et puis il va y avoir un ressac du béton avec l'arrivée d'Oscar Niemeyer, autre architecte du béton, très lié justement à la ville, parce qu'il a fait ce fameux volcan, hein, donc un béton blanc, crème, un béton qui raconte Brasilia, qui raconte aussi le communisme, d'une certaine manière. C'était un grand architecte qui a construit également le siège du PC, place du Colonel Fabien. Voyez, donc en fait, il fait aussi signe à un certain histoire politique de la ville, hein, qui a été très longtemps... qui a été très longtemps une mairie communiste. Et donc pour moi, c'est ce béton, il raconte déjà tout ça. Et donc c'est approcher ce matériau, ça me permettait de capter déjà cette histoire-là. Et puis c'est vrai qu'on a parlé du climat. Alors ça peut sembler un peu curieux de poser le climat comme un matériau de premier choix, et moi je pense que même c'est... À la fin, je finissais par me dire, c'est quoi une ville ? Une ville, c'est un climat. C'est-à-dire... parce que le climat, ça induit en fait beaucoup de choses, ça induit tout un rapport entre l'intérieur et l'extérieur, rentrer, sortir, dedans, dehors, le rapport à la peau, aux vêtements, est-ce qu'on est couvert, découvert, est-ce que c'est quoi le Havre, c'est une ville de grand vent, hein, c'est une ville extrêmement venteuse, donc c'est aussi, et tout ça, ça accrédite beaucoup pour moi la pluie, le vent dans la pluie dans le vent, l'atmosphère de roman noir, parce qu'en fait, ça crée quelque chose d'un peu opaque, de troubles sur ce béton, sur ce port, c'est aussi une ville portuaire, et donc cette agitation que produisent les nuages, le vent, le mouvement de la mer, voilà, pour moi c'est ce climat-là, il raconte sur un plan presque matériologique, il raconte beaucoup de la ville, et puis les silhouettes des personnes qui l'habitent, qui sont au Havre, on a les cheveux entortillés, les joues fraîches, enfin c'est il y a une espèce de physique, voilà, les manteaux volent, on se demande toujours si ça va tenir, les actions entreprises sont toujours précaires parce que c'est pas du tout, c'est un temps qui change tout le temps. Donc ça,
et ça passe par des choses très concrètes. Je pense à fumer des cigarettes au Havre, enfin, et qui en plus là, volontairement fétichisé comme dans les romans noirs, ouais. Il y a des hippos, il y a des allumettes, il y a la manière dont on allume une cigarette, ouais. Mais là, d'ailleurs, ouais. Dans ce vent, et ouais. Et c'est sur le moindre geste, en fait.
Tout de suite, il y a l'histoire qu'elle doit. Elle essaie de s'allumer une clope. Et évidemment, quand il y a du vent, voyez, on se tourne, il faut protéger sa flamme. Il faut... Bon, et c'est des villes où il est assez difficile de s'allumer une cigarette. Enfin, il faut aller s'abriter. Bon, tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois, pour moi, des mannes très concrètes. C'est-à-dire, ça parle du corps, ça parle de la manière dont ça vit, hein, dont ça vit une ville. Et évidemment que, moi, j'avais écrit sur Marseille. Voilà, Marseille, c'est tout un autre rapport à la... Même à la peau et à la permanence. Hein, vous voyez, c'est pas des temps très... La Méditerranée, ça peut changer, mais Marseille, c'est un temps plus constant. Le Havre, c'est ce changement permanent, ça rend les actes, tout est assez... il y a une précarité des actions. Quoi. Ça m'intéressait beaucoup pour commencer. Parce que cette fille, en fait, elle se... Elle est effectivement convoquée dans un commissariat pour identifier éventuellement un corps qu'on a trouvé au bas de la digue nord. On lui dit que son numéro de téléphone est sur ce corps. Donc elle est reliée à cet homme et pour autant elle le reconnaît pas. Elle le reconnaît pas, mais ce qu'elle va dire, c'est qu'elle ne peut pas être définitive. C'est-à-dire qu'elle est dans cette espèce d'entre-deux, il y a la possibilité d'un roman. En fait, pour moi, c'est parce qu'elle ne voit pas qui c'est pas qui, elle ne peut pas dire... On lui dit, mais vous le connaissez, il a votre numéro sur lui, mais elle ne le reconnaît pas. Mais dans cette façon de... Dans cette incertitude-là, le fait qu'elle ne puisse pas être sûre d'elle... Pour moi, dans cet écart-là, il y a un roman qui s'engouffre. Et c'est aussi un livre, je voulais quand même le dire, qui essaye pas mal de réfléchir à c'est quoi un roman quand même. Hein, parce que je m'étais déjà pas mal interrogée sur c'est quoi un roman. C'est quand même une grande question, ce qu'on... C'est un drôle de truc quand même, un roman. Et je me disais, dans Un monde à portée de main, où c'était déjà, il y avait déjà cette histoire de double, de trompe-l'œil et tout, je m'étais pas mal posé la question. Et là... c'est vrai qu'il y a ces codes dont vous avez parlé, ces codes du polar, du noir, qui sont des genres voilà, avec des codes extrêmement, je ne dis pas normatifs, mais qu'on repère très vite. Et moi, j'étais, je pense, dans un livre qui m'attirait extrêmement fortement, mais qui m'inquiétait aussi, parce que je souhaitais pas écrire un livre de souvenirs, par exemple, parce que moi, j'ai quitté Le Havre à 18 ans, et donc j'ai vécu toute mon adolescence là. La porosité autofictionnelle, autobiographique, était quelque chose qui m'inquiétait, je pense, et... Même si j'avais en même temps envie d'un livre plus personnel, avec une écriture à la première personne. Et je pense que ces codes-là et ces matériaux que j'ai rendus visibles dès les premières pages, ça me permettait comme une espèce de cap d'immunité, c'est-à-dire que je me disais, je suis sûre que je suis dans un roman, ça ne va pas être ma vie, etc. C'est vraiment un personnage inventé, il y a un corps, il y a un commissaire, il y a une scène de commissariat, et en fait, voilà, et il y a cette incertitude, et après, c'est une autre enquête qui se met en place, avec d'autres matériaux qui sont visités, et qui tiennent quand même tous à cette idée de la reconnaissance, de l'identification, donc... c'est vrai que la médecine légale joue un rôle, mais qu'est-ce qu'on autopsie ? C'est une ville aussi. Enfin, y a un corps et il y a une ville, et les deux se réfléchissent tout au long du texte, en fait.
Et ce qui est très intéressant, c'est que, bon, il y a ces souvenirs qui reviennent par strates, presque sédimentaires. Il y a une longue réflexion. Il peut faire signe à un monde à portée de main, parce que le motif préhistorique est très discrètement là, souvent, comme métaphore. Mais il y a cette idée des couches de la mémoire, le trouble que c'est, qu'est-ce que serait une mémoire. Donc, effectivement, elle enquête, et nous avec elle, sur elle-même, mais au sens, qu'est-ce qu'une mémoire et qu'est-ce que l'âge qui avance. Mais elle enquête aussi littéralement en modestie, c'est-à-dire que, quand je parlais de véhicule tout à l'heure, j'ai en tête la scène où elle débarque dans le commissariat, elle est paumée, elle a l'impression qu'il l'emmène avec elle dans des dédales de couloirs, elle est inexperte. Et ensuite, c'est une oreille.
Ouais,
c'est une oreille de ce flic, de leur manière, de ses manières, mais de leur manière de parler, de se comporter. Et en fait, c'est elle qui nous rapporte ce qu'on lui raconte, et à plusieurs endroits. Ce qui est une habileté narrative, mais aussi une position très, très, très belle dans ce qu'elle permet en termes de, globalement, d'apport d'informations documentaires. On y revient, il y en a énormément. Ça vous permet de passer l'information documentaire, mais il y a une forme de poétique des langues et des humains au travail et dans la vie, en fait.
Oui,
mais
ça commence dans
ce commissariat où elle arrive
matrice. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cette voix narrative, donc cette voix à la première personne, donc la première personne, c'est aussi un drôle de truc quand on écrit. Je pense qu'on a moi j'ai écrit jusque-là des romans en narrateur omniscient, où on a une amplitude En fait, rien n'est impossible, en fait. On peut faire un peu tout. Quand on est avec une écriture à la première personne, on est dans le cadre optique et psychologique aussi d'un être humain. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Mais alors, j'avais pas du tout envie que cette voix soit la voix de l'introspection psychologique. Ce qui m'intéressait, c'était de faire de cette voix intérieure une voix qui puisse s'enchasser toutes les autres voix et toutes les voix qu'elle va rencontrer. C'est-à-dire que c'est parce qu'elle est aussi doubleuse de cinéma, bon, elle est comédienne de doublage, cette femme, donc en fait, elle sait faire les voix de tout le monde, et c'est vrai qu'elle arrive dans le commissariat, elle entend comment ils parlent, comment parlent les flics entre eux, mais ensuite, elle va écouter très précisément la voix de Zambra, cet officier de police judiciaire. Puis ensuite, voilà, il y a ce moment sur la plage où elle rencontre un pelleteur, celui qui a découvert le corps. Elle va au cinéma où elle rencontre son... C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, la voix de cette personne vient finalement s'enchasser dans la sienne. Et ça, je trouvais que c'était assez, assez intéressant que la voix de l'intériorité se fasse plutôt voix des hospitalières à toutes les voix, quoi, qu'elle devienne l'abri ou la projection de toutes les voix possibles, y compris les voix des Ukrainiennes, donc des deux Ukrainiennes qui attendent leur visa avant de partir en Angleterre, y compris la voix de la médecin légiste à la fin qui va raconter sa garde. En fait, c'est un livre où cette femme déambule, elle est véhicule, mais en fait, elle est véhicule de toutes ces voix. Et toute la question du livre, c'est quand même, c'est quoi un récit, comment ça marche, qu'est-ce qu'on entend. C'est vrai que le premier moment dans le cinéma, on est dans un espèce de souvenir, parce qu'elle rencontre un vieux prof, etc. Donc là, c'est un souvenir assez cuisant où elle est démasquée alors qu'elle a triché lors d'une version d'un texte de Marguerite Yourcenar, etc. Donc voilà, il y a cette histoire de herse et pont-levis qui sont deux mots qu'elle n'arrive pas à traduire, donc c'est un thème, pardon. Et en fait, voilà, et ensuite. L'enquête se déroule avec des espèces de stases, de points qui sont toujours incarnés par des êtres, un pelleteur, donc je l'ai dit, une femme qui tient un bar, des Ukrainiens. Et entre ces temps-là, les souvenirs remontent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le roman permet ça, c'est-à-dire permet de, sur la question mémorielle, qui n'est pas convoqué vraiment là comme matériau romanesque, parce que bon, c'est un matériau que je pense tous les livres partagent. Mais en revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le roman est bien un objet magique qui permet de défaire la linéarité du temps. C'est-à-dire, elle se souvient à tous les âges. Enfin, on finit sur un souvenir, elle a 8 ou 9 ans, mais elle est à Rouen avec sa mère, mais avant, on l'aura vu à 40 ans, à 9 ans, etc. Et tout dans le désordre. Et ça permet, si vous voulez, de battre des cartes et de faire effraction dans le temps. Je ne dis pas ça pour le festival, mais c'est vraiment l'idée que le temps les souvenirs reviennent, mais évidemment pas dans l'ordre. Et cette façon qu'a le roman de permettre de défaire cette linéarité du temps qui avance, justement, et finalement qu'on puisse revenir en arrière, et puis un petit peu moins en arrière, et puis beaucoup plus en arrière. Finalement, c'est la préhistoire, et puis c'est hier à 17h, vous voyez. Donc, et ça pour moi, c'était... Et ça, avec la première personne, je trouve que c'est bien. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que tout se tient dans cette voix de cette femme qui, à la fois, voilà, il y a le ressac de ses propres souvenirs, et puis il y a ces autres voix qui viennent habiter la sienne et qui sont aussi nourries de documents. Ouais, de documents. La question de... le lever de corps sur une plage, par exemple, on en a parlé, c'est très compliqué. En fait, il y a des procédures, on découvre un corps sur une plage. En fait, il va y avoir un certain nombre d'actions, de processus, de personnes qui vont venir avec des corps de la police, des corps différents, jusqu'à ce qu'il y ait une légiste et puis que le corps soit embarqué. Mais si vous voulez, ça prend du temps. Il se passe des, on est aussi immédiatement dans des scènes qui évoquent des scènes de fiction, hein, des scènes de série. Donc en fait, finalement, tout ça c'est très intéressant parce que c'est le moment où le roman peut à la fois faire signe à d'autres fictions et évidemment faire signe aux procédures réelles de ce que c'est qu'une levée de corps sur une plage. Ça, moi, ça m'intéressait de l'écrire et aussi de me confronter à cette question comme la question de l'histoire, par exemple, le Havre a été... Alors, pardon.
La question, justement, là, il y a un document. J'étais, ouais. Mais voilà, littéralement, et persuadé qu'il y avait forcément un vrai document, ce que l'on ouais. voit, duquel je parle forcément. C'est-à-dire qu'il y a un témoignage qui est tellement bien retranscrit qu'on s'imagine, bah voilà, en littérature documentaire, vous êtes allé... Même si on peut se détacher, dans le fil de l'action, moi j'y crois complètement. C'est elle ou même vous, adolescente, qui est au lycée, voilà, je suis dedans. Et il y a donc un témoin, enfant, de la destruction du Havre. Et c'est un des moments, justement, particulièrement romanesque, alors qu'on est dans la restitution documentaire, c'est-à-dire quand ils sortent et qu'ils voient l'état de la ville, et que vous le décrivez encore une fois. On l'a dit, on a déjà parlé géologie tout à l'heure un peu, mais voilà, vous le décrivez techniquement, donc ça pourrait être un matériau a priori aride, alors qu'il devient extrêmement plastique et romanesque. Et on croit absolument la véracité de cette parole, alors que elle est, vous inventez un document. Et ça, c'est ce que je trouve très beau à cet endroit-là, sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire que vous inventez un documentaire et il est passionnant et il est romanesque.
Alors, ce qui se passe, c'est que en sortant de ce commissariat, elle se retrouve dans cette ville. Je dis ça un peu pour mettre ça en perspective. Et à un moment, elle prend le tramway et elle se dit, tiens, c'est marrant, ce tramway qui avance en ligne droite vers la mer, vraiment comme une espèce de flèche. Une phrase revient la hantée qui est, après la guerre, on voyait la mer depuis la gare. Et on voyait la mer depuis la gare, ça fait revenir le souvenir un souvenir d'adolescence où elle était allée avec une amie interviewer une femme qui avait vécu les bombardements, un témoignage des bombardements, donc dans les années 80. Alors c'est une scène qui était ultra intéressante à travailler, parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, la question que je me posais, c'était comment je fais rentrer l'histoire dans un roman ? Alors, ça a l'air d'être une question pas forcément cruciale, mais en fait, si. Parce que, si vous voulez, j'irai pas jusqu'à parler de mots de déontologie, mais il y a une éthique quand même quand on écrit. Et finalement, l'histoire, c'est précisément en tant que matériau, on n'est pas du tout dans la fiction, et puis ça renvoie à des faits qui ont eu lieu, à des personnes qui ont souffert, à des destructions. En tout cas, en ce qui concerne les bombardements du Havre, les 5 et 6 septembre 1944, il y a eu 2000 morts. La ville a été détruite, anéantie en deux jours, alors même si les bombardements ont continué jusqu'au 11-12. Et voilà, il y a eu cette espèce d'aplatissement de la ville. Alors ça, si vous voulez, j'ai cette histoire de fille qui essaye de comprendre qui est ce type et qui rentre pas à Paris mais qui commence à reprendre pied dans la ville où elle a grandi, avec cette idée qu'elle aimerait bien quand même se souvenir et élucider l'identité de ce cadavre, de ce mort, et en même temps qui reprend pied dans cette ville. Et à cet endroit-là, donc je suis complètement dans un roman, et à cet endroit-là, je sais que je veux traiter des... Je veux que le livre s'élargisse et accueille les bombardements du Havre, le récit des bombardements. Et que ça ne soit pas... si vous voulez, que ça soit quelque chose qui puisse être reçu comme de l'histoire dans un roman. Comment, et cette jonction-là, cette couture-là, elle est pas simple, parce que c'est vraiment des textes de... J'avais aucune envie de romancer les bombardements, donc en fait, c'est vrai que la voix du témoin, c'est génial, parce que ça permet d'incarner totalement un récit. Et le récit de Jacqueline, je crois qu'il n'y a pas vraiment un mot qui n'ait pas été lu dans des archives de témoins. C'est-à-dire que à la fois la marque des avions, le nombre d'avions, le nombre de bombes, la façon dont on largue des bombes sur une ville, et s'il faisait le 5, c'était il y avait du vent, il y en avait un peu moins le lendemain. Vous voyez comment ça marche. Ça, pour moi, c'était très important, un peu comme rendre justice, mais en fait prendre acte de ce qui s'était passé. Et prendre acte, c'est quelque chose qui vient quand même perturber la littérature de fiction. Prendre acte de ce qui a eu lieu réellement et qui a détruit des vies, et surtout qui a créé une telle destruction. Vous voyez, pour moi, j'ai fait attention à ce moment-là, et ça m'a intéressée de le faire. Le fait que cette femme, elle soit comédienne de doublage, donc c'est immédiatement cette sensibilité à la voix, au timbre, à la tessiture, au grain, au rythme de la parole. Donc elle pouvait tout à fait avoir gardé complètement dans l'oreille le témoignage de donc cette Jacqueline, hein, Jeanne Fonda, période aérobique. Il y a cette idée de la voix, et elle va garder, elle va l'enregistrer avec ses amis. C'est les fameux projets de terminal qu'on faisait sur l'année, en fait, hein, un peu des projets d'option. Et donc elles font cette interview, elles le retranscrivent, elles font des exposés, etc. Et donc il y a une cassette, et c'est vrai que ce document-là, il est inventé, mais évidemment cette cassette, c'est la bande-son de la guerre, et c'est une bande-son qui renvoie à d'autres bandes-sons qui traversent le livre. C'est un livre où il n'y a pas, je crois, un élément qui ne fait pas écho à d'autres éléments. Il est un peu construit comme ça, dans la mesure, comme le dit la phrase d'exergue de Patterson, « Mais un homme semblable à une ville », c'est vrai que le Havre a été aussi un cadavre méconnaissable, que plus personne ne pouvait identifier, etc. Vous voyez, il y a cette espèce de parallèle en permanence entre ce corps dont on voudrait trouver le nom, et puis cette ville qu'on a nommée du même nom, mais en fait qui était complètement une autre, et qui était surtout complètement méconnaissable. Et en fait, dans tout ça, pour moi, je piste aussi ce qui peut être à la fois le pouvoir du roman, et effectivement dans cette idée quand même de rapport à la réalité et à la vie, hein. C'est ça qui m'intéresse, de voir comment un art de la représentation peut attraper une forme de justesse, pas de l'exactitude, mais de la justesse. Ce qui est important, c'est la justesse.
Et vous avez toujours été très sensible à la toponymie, enfin, et à l'onomastique, au nom de vos personnages. Et là, elle réagit de façon à la fois intime et globale, si j'ose dire, sociologique, historique, à des mots-clés qui continuent évidemment de nous faire visiter. Hein, soit à un moment, c'est dans le tram et la direction dans laquelle ça va, qui fait revenir ce souvenir-là. C'est la ligne droite du tram. Mais à un moment, on lui parle de la Dignor. Et là, il y a deux pages, on ne va pas les relire, vous irez voir Dignor. Dignor, c'est quelque chose qui arrive dans l'enquête, ça a rapport avec ce qui s'est passé, le corps retrouvé sur la plage. Mais là, en deux pages, vous faites un portrait à la fois totalement intime et totalement sociologique et sciences humaines, pour le coup, de la répartition des corps sur cette plage, de la géologie de la plage, du fait qu'il y a toujours les gravats dont vous nous avez parlé, de la particularité dont les humains occupent cet espace-là. Or que c'est de l'intime.
Oui, parce que là, c'est vrai que la Dignor, pour moi, c'est vraiment dans ce nom, se loge à la fois En fait, toute la géographie du littoral d'une ville, c'est-à-dire la Digue Nord, c'est une énorme barre de béton, qui est sur un enrochement très, très important, qui va séparer les eaux de travail, les eaux du port, les eaux laborieuses et puis les eaux de plaisir. Donc en fait, c'est une espèce de frontière importante. Et d'un côté, il y a le port qui est quand même une zone de trafic qui est désormais une zone plutôt une espèce de gigantesque terminal à conteneurs, mais une zone désormais très sécurisée, etc. Quand moi je vivais au Havre, c'était beaucoup plus ouvert. Et puis cette plage qui fonctionne au Havre comme au beau jour, comme une espèce de grande plaque qui va aimanter toute la ville. C'est-à-dire que toute la ville descend à la plage. Et c'est vrai que c'est un des souvenirs d'enfance les plus fabuleux que j'ai, quoi. C'est-à-dire tous les gens qui descendaient à la plage au beau jour, c'est pas si courant, le soleil au Havre. Et il y avait tout d'un coup cette espèce de grande... De grand espace avec cette clameur, c'était magnifique. Et pour moi, ça raconte aussi complètement la ville, parce que évidemment du plus près du port, c'est-à-dire du plus près de la digue, il y avait les personnes peut-être les plus populaires, hein, qui venaient par quartier. Puis on allait vers l'ouest, c'est-à-dire plus on allait vers Sainte-Adresse, les quartiers chics, plus, si vous voulez, les classes sociales se couchaient à l'horizon. Enfin, c'était plus une vision verticale de la sociologie avec les classes populaires et puis les classes bourgeoises. Si vous, tout le monde était effectivement en train de se faire mal aux fesses sur les galets. Donc ça, il y avait une relative égalité dans le truc. Mais si vous voulez, c'était quand même des plus pauvres aux plus riches. Et les plus pauvres, symboliquement, toujours plus près du port où ça travaille. Et les plus riches, toujours plus près du large où c'est plus aéré. Enfin voilà, il y avait donc et c'est vrai que ça faisait une espèce d'échantillonnage assez drôle. Et pour moi, toute la ville était là et j'avais envie à un moment qu'il y ait cette image là. C'est aussi que je trouve que pareil, le roman comme forme peut accueillir évidemment les sciences humaines. S'il ne s'agit pas de faire de la sociologie, mais juste en racontant voilà, cette répartition, tout d'un coup, on donne une espèce de représentation qui, en plus, peut être un peu drôle. Mais, je trouve que voilà, l'observation, les notations sociologiques, tout ce qui... Il y a un moment aussi où il y a le baptême d'un bateau. Donc là, on est avec les pilotes du port du Havre, c'est un moment de métier. Il y a tous les pilotes, c'est un métier assez particulier où c'est vraiment un groupe d'hommes qui rentrent et qui sortent les bateaux du port. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était d'ailleurs assez, pour le coup, anthropologique, c'était de voir que on donne un nom à un bateau alors que elle se souvient de ça, mais elle est non. Il faut donner un nom à un homme. On n'arrive pas à nommer ce corps. On ne sait pas. Il est sous X pendant tout le livre. Et pour autant, elle se souvient de ce moment où on avait nommé un bateau avec des rites qui faisaient qu'on considère les bateaux comme des personnes, c'est-à-dire on les baptise, etc. Et ça m'a toujours assez fascinée qu'on puisse... voilà, c'est un peu cette histoire de humain-non-humain, il n'y a plus vraiment de frontières, quoi. D'ailleurs, pour les marins, leur bateau, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est une entité non humaine qui est presque à égalité avec eux. Je veux dire, c'est quelque chose de très fort, un bateau avec le nom. Et là, cette petite pilotine qui est baptisée, voilà, là, il y a un corps de métier qui est rassemblé. Et là, moi, ça, j'adore. Parce que moi, je m'intéresse pas mal au travail dans mon travail à moi. Ça m'intéresse qu'il y ait des métiers. C'est vrai que les gens font des trucs. Elle est doubleuse. Bon, on la voit enregistrée, on la voit à Londres en train de faire...
J'insère une question, c'est la suivante que je voulais poser. Ouais, justement, le moment de doubleuse, racontez-le-nous aussi documentairement, un peu selon le plan que j'avais vous avez dit ici au départ, ce serait très, très intéressant qu'on comprenne à cet endroit-là, aussi, enfin, en partie, comment vous êtes allé vous documenter, en quoi ça vous a intéressé, ce que vous avez ramené pour, avec l'art romanesque que vous avez, c'est-à-dire que moi, j'ai relu, j'avais transformé peu à peu que la scène était entièrement dialoguée, alors que non, c'est une forme de monologue qui, voilà, mais voilà, parce que ça m'avait fait un effet de réel. Et il se trouve que dans une situation de travail, donc il se passe quelque chose. Ce qui est remarquable d'un point de vue romanesque, c'est, et d'un point de vue réaliste pour le coup, c'est qu'elle nous parle de son travail en travaillant, donc il se passe quelque chose, c'est pas juste un espèce de plan documentaire qui arrive et qui explique que ce travail est comme ça, elle est en situation. Il faut filmer les deux, donner à entendre les deux, donc c'est la réussite finale de ce qui nous est offert à nous, c'est-à-dire que ça nous informe tout en nous passionnant et en restant dans l'histoire, pour faire simple. Mais vous êtes allé vous informer. Comment et quelle est le... Voilà, c'est pas la méthode, mais la chimie, la percolation qui fait que tout ça se transforme pour en faire un moment romanesque, une scène.
Oui, oui. Ce qui m'intéressait, c'est que la femme qui raconte cette histoire, qui elle n'a pas de nom d'ailleurs, qui n'est pas nommée dans le livre, la femme qui dit « je » et qui raconte toute cette histoire, elle est donc comédienne de doublage. Alors, C'est génial pour moi. C'est-à-dire, je me disais, donc il y a cette histoire d'accueil des voix, qu'elle peut faire toutes les voix, que c'est quelqu'un qui écoute. Hein, elle est aussi, c'est une écoute très fine. Voilà, toutes ces histoires d'accent. Mais c'est aussi, pour moi, une façon de métaphoriser mon travail. Moi, je suis un peu la doubleuse de la doubleuse, d'une certaine manière. Et ça, j'aimais bien ce jeu. Alors, l'histoire du double, moi, j'avais commencé à le travailler donc, dans Un monde à portée de main, parce que c'était l'histoire d'une fille qui refait des trompe-l'œil, des décors, etc., qui se retrouve à faire le facsimilé de Lascaux 4. Et cette question du double, évidemment, de l'illusion, ça me passionne. Donc là, c'était un cran au-dessus, parce que là, il n'est pas question d'illusion. Quand on est comédien de doublage, on met sa voix dans le corps d'un autre, carrément. C'est-à-dire, il y a une espèce de dissociation. Je ne sais pas si vous avez vu des acteurs français, parce que moi, j'y ai repensé, là, quand le livre est sorti, que j'avais vu des films avec Deneuve doublés en japonais. C'est complètement une autre personne. Et cette voix très très basse et très très heurtée, et alors que Deneuve a une voix assez claire et limpide et assez haute, et en fait on voit bien que voilà, la voix qui est le langage, la parole, la voix articulée qui est aussi la trace de notre humanité, c'est quelque chose de très très passionnant à regarder de près. Comment est-ce qu'on a commencé à à quel moment moi c'est des choses qui me passionnent, c'est dans cette histoire d'écrire, c'est aussi que rien n'est un détail et que tout est objet de recherche. Et c'est vrai que je me dis, à partir de quand est-ce qu'on commence à parler? Bon, j'avais écrit ça sur la voix articulée, la mandibule, voilà. Bon, ouais. Mais là, la comédienne du doublage, c'est quelqu'un qui peut aussi être dans un moment d'échec et dans un moment de fragilité. Donc elle, quand elle arrive au Havre, c'est une femme qui s'est bien plantée à ses enregistrements précédents. 3 jours auparavant, elle était à Londres. Elle était venue pour passer des essais pour une série, pour doubler Carey Mulligan dans une série américaine où elle aurait possiblement d'abord bien gagné sa vie et puis gagné un peu de légitimité dans son métier. Et il se trouve qu'elle s'en tire mal. Et parce que à ce moment-là, donc je raconte ce que c'est qu'une post-synchro. Donc une post-synchro, le comédien ou la comédienne de doublage est devant un écran et doit lire en fait une espèce de bande, un ruban avec le et d'être complètement synchrone avec la voix de l'ouverture, enfin tous les mouvements de la bouche et les expressions aussi de la personne qui s'exprime. Donc ça c'est une recherche assez géniale. Elle se plante un peu et rentre l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça me permettait aussi d'aller attraper quelque chose qui est complètement... parce qu'à la fin de ça, on lui dit, écoutez, on va prendre une IA parce que franchement, c'est moins compliqué, ça va plus vite. Et c'est ça la fragilise parce qu'en fait, elle se dit, mais... Voilà, est-ce que mon métier va disparaître? Et c'est un livre où il y a beaucoup d'histoires de fantômes, beaucoup d'histoires de disparitions, beaucoup de choses qui s'en vont comme ça. Le climat du livre, c'est une humeur qui est assez grave par moments, hein, parce que c'est vrai que c'est un livre aussi que j'ai écrit moi, donc dans un contexte de le contexte des guerres en Ukraine et puis à Gaza. Donc en fait, c'est un livre assez grave et aussi avec ces espèces d'inquiétudes que pourraient légitimement nous peser sur la création, que l'IA fait peser sur la création, qui concerne tout autant les auteurs d'ailleurs que les comédiens. Et j'avais envie à un moment donné, donc elle rentre le soir, et ça c'est un moment que j'aime bien dans le livre, elle retrouve son mari et sa fille à Paris, et elle est très fragile, très vulnérable. Et puis après, quand elle arrive au Havre, c'est une femme qui est quand même un peu déstabilisée par ce qui lui est arrivé 3 jours avant. Donc rien qu'avec ce petit métier, il y a cette scène à Londres que moi j'aime beaucoup parce qu'elle rompt avec
avec et le la Havre. Source. Est-ce pas les sources. Comment vous avez travaillé ? C'est-à-dire, je repensais et c'est très différent ce qu'elle fait. Olivia Rosenthal et son rapport avec les entretiens. Et c'est très différent, ouais. mais pour lui avoir déjà posé la question, elle retraite une voix dans des modalités très différentes. Mais vous, est-ce que vous êtes allé interroger quelqu'un ? Est-ce que vous êtes allé le lire ? Est-ce que pour sa technique du doublage, qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vient en plus énerver, même quand elle ne parle pas de doublage, tout le reste du récit ?
Oui, alors moi j'ai rencontré une personne qui était comédienne de doublage, un peu par hasard d'ailleurs, mais j'ai aussi pas mal lu, et surtout j'ai vu des films en version française, ce qui n'était pas forcément hyper agréable, mais qui me permettait de me rendre bien compte de ce que c'était que de mettre sa voix dans le corps de quelqu'un d'autre. Ça, j'aimais bien, notamment des films avec des voix de comédiens de doublage qui sont quand même assez connus. Je pense à la voix de Julia Roberts, par exemple, ça m'intéressait, ça. Et puis, c'est vrai que là, sur la question de l'IA, là, j'avais commencer à me renseigner, parce que pour le coup c'est assez simple en fait, cette histoire, c'est que c'est des puissances de calcul, les intelligences artificielles, donc en fait plus elles sont nourries, plus elles sont puissantes. Et ce qui s'est passé récemment, donc il y a 2-3 ans, il y a beaucoup de comédiens de doublage qui ont été sollicités pour donner leur voix à une IA, c'est-à-dire faire des enregistrements qui étaient d'ailleurs des enregistrements un peu pirates. On leur prétendait qu'on allait qu'ils auditionnaient pour un rôle, mais en fait leur voix enregistrée allait directement nourrir une IA. Ce qui fait que les moteurs de recherche sont très très performants parce qu'extrêmement nourris. Donc je me disais, mais c'est pas si grave alors, quoi. Sauf que ce que permet l'IA, c'est une forme de standardisation aussi, c'est-à-dire que justement tout ce qui est accidentel, tout ce qui est là où on est justement une espèce de fragilité, ça n'existera plus, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on balance une voix d'une Française, mais qui parle avec un accent américain, une femme de 75 ans qui a un chat dans la gorge. Bon, bah, on l'a. Ça m'avait assez impressionné. Et là, pour le coup, j'avais lu pas mal de trucs. Et puis, il y a une très grande association de comédiens de doublage. Ils ont un site qui est super. Donc voilà, j'avais été regarder ça. Mais c'est peut-être la chose sur laquelle, pour moi, il y avait plus de cogitation. Pour moi, c'est presque un problème un peu métaphysique, parce que la voix, c'est quand même une donnée biométrique extrêmement forte. Hein. C'est vrai que c'est comme une empreinte digitale, etc. Donc dans cette histoire de vol de voix ou de remplacement des voix, il y a quelque chose qui vient quand même raboter un peu une part humaine, en fait. Hein. Et donc pour moi, il y avait quelque chose qui était plus méditatif, enfin pour moi, tandis que par exemple pour la levée de corps, ça c'était vraiment aller rencontrer des policiers, voir des films, etc. Mais surtout, c'est pas vraiment comme Olivia, qui je crois qu'elle fait plutôt des entretiens plus de manière plus systématique. Moi, j'ai plutôt je cherche plutôt ce qui s'apparenterait à une sorte de fixeur, en fait, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'intérieur et qui auprès duquel je vais pouvoir aussi attraper du langage. Et par exemple, tout le vocabulaire de la post-synchro, c'est un vocabulaire qui est évidemment immédiatement... qui n'est pas immédiatement littéraire, puisqu'on est immédiatement dans de la technique. Donc c'est des mots qui vont immédiatement sauter sur la page, qui vont un peu sauter aux yeux. Et la médecin légiste, en revanche, c'est vrai que le livre a un peu dévié, c'est-à-dire que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à la médecine légale. Et que pour cela, j'ai été vraiment voir une médecin légiste, j'ai assisté à une autopsie. Enfin, ouais, alors là, pour le coup, qui sont quand même des moments assez intenses et quand même extrêmement intéressants. Et là, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui va venir après. Je ne me suis pas servi de tout là, et puis je suis encore en travail là-dessus. Mais c'est vrai que l'autopsie d'une ville, avec donc, voilà, les traces un peu des passés traumatiques, ça, pour moi, intéressait aussi bien cette femme avec le fait qu'elle ait été traumatisée par un garçon qui a disparu, la narratrice ayant été ghostée par son amoureux, ça fait aussi un espèce de traumatisme. La ville, enfin, les femmes de ce livre, elles ont toutes un peu des petites ruines. Jacqueline, la témoin, a également une petite ruine parce que son amoureux a disparu dans les bombardements. Donc en fait, il y a des questions comme ça. Alors pour les bombardements, c'était vraiment une documentation qui était beaucoup plus historique. Mais par exemple, pour la médecine légale, là, pour le coup, c'est prendre un train, rencontrer quelqu'un, essayer d'ailleurs déjà de voir quelqu'un, d'identifier quelqu'un qui pourrait vous parler de ce métier quand même extrêmement particulier et qui est aussi un métier presque très, très spectaculaire par rapport à tous les personnages dans les séries américaines. Donc il faut déjà se départir de ça, etc. Donc ça fait partie des formes d'enquête, et jusqu'à l'imprimerie de la fin d'ailleurs, hein, qui est pour moi la description de cet Heidelberg. C'est le moment où je finis le livre.
Heidelberg, c'est une machine. C'est une machine qui arrive dans l'imprimerie.
Ouais, c'est une très vieille presse. Et là, le livre se termine. Il y a un espèce de geste un peu plus poétique où voilà, on va parler de ce qui va imprimer possiblement ce livre, etc. Donc je trouvais que c'était important de faire le mari de cette femme est imprimeur. Enfin, je trouvais ça intéressant.
Il doit me rester le temps que pour une question, si je veux vous en laisser une, et j'hésite entre plusieurs directions. Et donc ce moment-là, de la machine, par exemple. En même temps, il y a l'anniversaire de la fille, il y a l'évocation de la naissance, et il y a beaucoup de circulation comme ça, d'associations. Qui se font, vous l'avez dit, hein, mais qui sont à différents endroits du livre, et en vous écoutant, certaines réapparaissent. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez évoqué le bateau, il s'appelle l'Hirondelle, elle appelle sa fille mon Hirondelle. C'est des petits détails parsemés comme ça, mais il y en a un, moi, qui m'a complètement scotché. Donc je vous le pose comme question, parce qu'il me semble revenir sur ce qu'on a dit au début, sur vos obsessions du corporel, de l'incorporation des choses. Là, il y a une forme d'incorporation de la ville et de la mémoire et du personnage. Et c'est presque littéralement dit. Elle constate, on est au début, hein, elle constate, elle revient au Havre, elle constate que ça a changé. Le Havre avait encore des poussées de croissance adolescente, mais la ville dont je suis l'enfant demeurait indifférente à tout ça. Et là, c'est l'incorporation des deux. C'est-à-dire que la ville qui est la mienne... en fait, elle s'en fout d'avoir changé. Elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation totale de la ville comme son être à elle. Hein. On parlait aussi de personnages tout à l'heure. Ça a un rapport avec la littérature, parce que plus bas dans la page, il y a la citation tronquée de Baudelaire, reprise par Gracq. La ville est le change plus vite que le cœur des mortels.
La forme d'une ville change plus vite.
De la même manière qu'un peu plus loin, il y a j'ai fait ma promenade au phare. Point. Et Wolf, elle a compté aussi. Donc il y aurait comme deux questions dans ma question, mais la littérature aussi comme un matériau pour pour produire cette coalescence entre certaines de vos obsessions, c'est-à-dire celle des lieux architecturaux, le minéral, le béton, on en a parlé, la technicité des lieux, et puis l'organique même de nous qui y habitons et circulons.
Oui, en fait, je suis très complètement d'accord avec votre lecture, au sens où ça, pour moi, ça renforce l'idée que le roman est un organisme vivant, enfin, et fonctionne comme un organisme, alors comme un corps, mais comme un organisme, c'est-à-dire que tout circule. Et c'est vrai que ce livre-là, et c'est pas un livre où il y a beaucoup de métatextes, au sens où on n'est pas, mais il écrit, comme tous mes livres d'ailleurs, mais avançant en âge, de fait, je lis plus. Enfin, voilà, ouais, j'ai lu plus de livres. Enfin, bon, bref, cette matière littéraire, je vois qu'elle prend, elle devient de plus en plus centrale. Cette matière littéraire, cette matière de lecture, dans mon travail littéraire, c'est-à-dire que je me rends compte. Mais ça, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est vrai que mes livres reposent sur d'autres livres. Hein. Mes livres, ils sont écrits en tension avec d'autres livres. Ils sont parfois écrits contre des livres, mais ils font signe à beaucoup de livres. Et c'est vrai que la question du matériau littéraire dans ma littérature, je sens qu'elle prend un peu d'importance, au sens où je le faisais un peu plus dans les livres précédents, de signaler des choses. Mais là, c'est vrai que bon, il y a Baudelaire qui est bon, ça commence par William Carlos Williams et puis Baudelaire très vite sur cette question de ville. Bon, Patterson, c'est un grand poème de la ville, des grands poètes objectivistes américains que j'adore, c'est un livre magnifique. Mais c'est vrai que voilà, dans Le Cygne, il y a cette phrase géniale. Mais et après, je fais des signes à des auteurs qui voilà, dont le travail innerve le mien. C'est vrai. Enfin, c'est-à-dire que j'écris parce que j'ai lu. Et pour moi, la question de la lecture et de mes lectures, elle devient de plus en plus importante. Je pense que en tout cas, je réalise que cette façon d'écrire parmi les livres, d'écrire en connexion, que mes livres, ils parlent à d'autres livres. Voilà. Et que dans ce livre-là, quand la fille dit « j'avais envie, moi aussi, de faire ma promenade au phare », évidemment que c'est une façon de montrer ma gratitude aux vagues, à la promenade au phare et à Mrs. Dalloway, d'un coup. Et ça, je trouve que c'est... ça me plaît, parce que c'est aussi une façon de... sur le plan de un plan plus politique, de dire que, enfin, de m'inscrire dans parmi des auteurs qui pensent pas forcément que voyez, tout leur est donné, c'est-à-dire qui mobiliserait les termes de, je sais pas, talent, être doué, etc., mais beaucoup plus. Donc c'est pas du tout une verticalité, mais c'est une horizontalité de lecture. On est sur un plan immanent de lecture et tout rentre en lien. Et c'est vrai que ce livre là bon, il est comme il est. Bon, et en plus, on n'a jamais fait le livre qu'on voulait faire, donc ça, c'est il y a toujours une espèce de quelque chose qui est un peu difficile dans cette histoire-là, de pas parvenir à faire le livre qu'on rêvait d'écrire. Mais néanmoins, ce dont je suis sûre, c'est qu'il fonctionne comme un organisme. Et vraiment, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un élément qui ne fait pas signe à un autre élément. Il y a des échos, c'est un livre de reflets, d'échos, une façon de jouer avec cette histoire des correspondances de Baudelaire. Tout est en rapport. Hein. Il n'y a pas un élément qui n'est pas en rapport avec d'autres éléments. Et ça, pour moi, c'est comme ça que j'avais envie, enfin, c'est comme ça que j'avais envie de travailler aussi un peu cette question du roman, qui est quand même un peu le truc qui m'obsède un peu. Hein. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, ces histoires inventées ?
Stieg Bergman, avec la paume rouge dans Berlin, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'étais éblouie par ce souvenir et le parallèle que vous faites entre Le Havre et Berlin.
Il y a l'idée de... Le Havre est mis en rapport avec d'autres villes. Hein. Elle est... Ouais, bien sûr. Et je trouve que, de toute façon, cette question des... Toute la question des... Je trouve des... de la réverbération. Voilà, c'est un peu un livre où il y a de la, il y a tout se réverbère et ça accuse, je trouve, une matière plus spectrale aussi, la présence des fantômes, des choses qui sont peut-être moins plus difficiles à capter, mais en même temps ça installe vraiment la possibilité que le roman fonctionne comme un, voilà, comme un travail d'imagination en acte, c'est-à-dire la façon de créer des rapports entre les choses. Et pour moi, c'est important parce que toutes ces personnes qui racontent le récit des Ukrainiennes, le récit du voyage à Rouen, où la narratrice découvre le passé, le récit de la médecin légiste, enfin, tous ces récits-là, ils interrogent qu'est-ce que c'est que raconter une histoire. Or, moi, je suis en train de le faire aussi. Et moi, j'ai pas vraiment de. Je pense que j'ai aussi une conception du roman qui est assez simple, où on raconte quelque chose. Il y a quelque chose de très littéral, de raconter quelque chose. Sauf que cette simplicité-là, à la fois, elle me plaît, mais quand je me penche vers elle, c'est beaucoup plus sophistiqué que simplement raconter. Ça engage beaucoup de choses. Vous voyez, ça engage beaucoup de questions. Voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant.
Merci. Il y a une question. Ouais, on a presque dépassé. Je prends la question de monsieur. Si.
Bonsoir.
Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que c'est vrai que, pour le coup, je pense que les auteurs qui continuent de lire alors qu'ils écrivent sont assez minoritaires. Il y a plutôt beaucoup d'auteurs qui disent « moi, je suis en train d'écrire, je veux rien lire ». Alors, il y a, je pense, l'inquiétude d'être sous l'influence d'une voix puissante qui puisse peut-être vous... perturber la vôtre, il y a des effets Larsen, voyons, on se dit oh là là, mais moi je pense que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire plus je lis des choses qui m'émerveillent, qui me transcendent, qui me stimulent, et plus j'ai l'impression que j'entends bien ce que je. Vous voyez, plus je sens que je suis proche de mon travail. Donc, moi, je coupe pas du tout. Je coupe pas. Je continue à lire, à aller au cinéma, à voir des expos, etc. Ou à parler à des gens, à vivre assez normalement. Mais en revanche, quand j'écris, évidemment que c'est des périodes assez longues d'écrire quand même. C'est vraiment plusieurs années, enfin plusieurs mois au moins, et puis parfois plus. Et c'est vrai que la vie, quand on est dans un travail littéraire d'écriture qui est quotidien, en fait, je dis pas qu'on écrit tous les jours. En fait, on écrit tous les jours, même si on n'écrit pas tous les jours. Je m'explique, c'est que tous les jours, on est quand même dans cette histoire-là. Qu'on corrige, qu'on prenne des notes, qu'on se dise putain, mais ça c'est vraiment génial, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Voilà. Et en fait, je trouve que les périodes où on écrit sont des périodes qui sont différentes quand même que les périodes où on est un peu né au vent à se dire tiens, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire et tout ça. Les moments où on écrit, c'est quand même des moments où il y a une concentration qui est quand même permanente. En tout cas, pour ce livre-là, moi, j'ai le sentiment que j'arrive peut-être moins en moins à faire cette balance entre la vie et la littérature. C'est-à-dire, quand j'écris, c'est vraiment, j'ai du mal à me sortir, sortir de cette pratique de l'écriture pour vivre un peu normalement. J'ai quand même besoin d'être extrêmement concentrée, parce que c'est quand même une course de fond, l'écriture. Il y a tellement de doutes dans un livre, vous voyez. Donc il faut, et il y a cette histoire de la croyance, on n'en parle jamais, mais il faut quand même croire que qu'on va y arriver, qu'on va aller au bout. Ça repose sur assez peu de choses, en fait. Hein. Parfois, certains auteurs peuvent être très épaulés par des éditeurs ou par des proches. Moi, je travaille plus dans le secret. C'est vrai que je fais lire à personne tout le temps où j'écris, sauf à la fin, j'apporte mon livre et voilà. Et ça, ce secret, il me stimule. C'est comme une espèce d'érotique de l'écriture. J'ai besoin que ce soit d'être dans quelque chose d'assez clos. Mais alors, ça me conforte dans un... J'ai l'impression qu'avant, mais peut-être que j'écrivais moins tout le temps, ou que c'était... j'enchaînais moins rapidement les livres, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'impression qu'à la fin d'un livre, il y a un tuilage avec le suivant. C'est comme une espèce de pratique qui ne s'arrête pas. Et peut-être que c'est pour ça que je me faisais la réflexion l'autre jour, que j'ai du mal à sortir complètement de ce travail de fiction. Et c'est ça qui est un peu un problème, d'ailleurs, parce que ouais, quand on réfléchit à la fiction tout le temps, c'est pas super facile de... Enfin... Voilà, c'est une vie spéciale.
Merci.
Merci beaucoup.
Maïlys peut vous rencontrer autour d'une dédicace du livre, si vous voulez lui adresser un mot en direct. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci de votre écoute.
Et le festival continue ce soir avec une performance en forum -1 à 20h30 de Selima Atalashetawi, qui risque d'être... assez performante et perforante, et très belle aussi. Et c'est un livre qui sort aujourd'hui, je crois, à la Contre-Allée. Donc n'hésitez pas, surtout pas. Merci encore, Maïlys.